Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Libour avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Deuil national de 3 jours au Mali en hommage à l'ancien président Amadou Toumani Touré. La situation est confuse au Sahara occidental après des échanges de tirs entre l'armée marocaine et le Polisario. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est en visite à Paris. Les laboratoires Moderna annoncent eux aussi avoir un vaccin efficace à plus de 90%. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mali, avant ses obsèques nationales prévues demain, ce matin, un cortège funèbre a été organisé en l'honneur d'ATT dans la capitale malienne. Le président de la transition a décrété un deuil national de 3 jours qui a commencé ce matin. Décédé le 10 novembre 2020 en Turquie, la dépouille d'ATT est arrivée à Bamako le week-end passé. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est à bord de l'avion présidentiel que la dépouille d'ATT a été rapatriée de la Turquie. C'était le samedi dernier, aux environs de 4h du matin, sur le tarmac de l'aéroport international de président Modibo Keïta, il y avait le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui avait à ses côtés le premier ministre, certains membres du gouvernement, des personnalités politiques, mais aussi une foule de grands jours étaient de cette cérémonie pleine d'émotions. Aucune intervention officielle, la dépouille après le recueillement de cette certaines personnalités a pris la direction de la ville de Bamako. Dans la foulée de cette disparition, le président de la transition Bandaou a décrété un deuil national de 3 jours qui a commencé ce lundi à partir de 0h. Avant les obsèques nationales prévues pour ce mardi, ce matin, un cortège funèbre a été organisé par la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali. Ce cortège est parti de l'Institut Marchou en passant par le monument de l'indépendance au niveau du boulevard de l'indépendance avant de revenir sur la chapelle Ardent du génie militaire où doit se dérouler demain les obsèques nationales du président Amadou Toumani Touré, décédé en Turquie le 10 novembre dernier. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, les 5 figures de l'opposition interpellées la semaine dernière ont été inculpées pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et transférés à la prison civile de Conakry. Selon le parquet, les 5 hommes figurent parmi les 6 opposants déclarés comme activement recherchés à la suite des violences qui ont suivi la réélection controversée du président Alpha Condé. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, le blocus policier qui était en place depuis 2 semaines devant la résidence de Pascal Affine-Guessant, porte-parole de l'opposition, a été levé aujourd'hui. Ancien Premier ministre sous la présidence de Laurent Gbagbo, Pascal Affine-Guessant est détenu dans un lieu tenu secret depuis son arrestation le 9 novembre, selon ses avocats. La situation au Sahara occidental reste confuse alors que l'agence officielle marocaine MAP et le Polisario ont fait état de tirs le long du mur scindant le territoire disputé après l'annonce vendredi d'une rupture du cessez-le-feu de 1991 par les indépendantistes sahraouis. Nathalie Barge.
Depuis vendredi, le Polisario, soutenu par l'Algérie, multiplie les annonces de combats le long du mur de sable de 2700 km qui démarque les deux camps et affirme mobiliser des milliers de volontaires. La MAP a repris dimanche soir les informations d'un site non officiel dédié aux forces armées royales, affirmant que depuis le 13 novembre, le Polisario a effectué des tirs le long de la ligne de défense. L'armée marocaine a riposté, occasionnant la destruction d'un engin porte-armes au niveau de Mabès, près de la frontière algérienne, selon le forum militaire Phare Maroc. Le mouvement indépendantiste a décrété l'état de guerre vendredi après une opération de l'armée marocaine pour rétablir le trafic routier avec la Mauritanie au poste frontière de Guerguerat où les camions étaient bloqués depuis 3 semaines. Pour le Polisario, cette intervention a sonné la fin du cessez-le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU, tandis que les Marocains se disent attachés à son respect. des négociations impliquant le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont au point mort depuis 2019.
En République démocratique du Congo, la chanteuse Tchala Mouana a été interpellée après la diffusion en ligne d'une chanson considérée comme un pamphlet contre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a-t-on appris auprès de son entourage. En Éthiopie, diverses médiations tentaient de s'organiser aujourd'hui pour faire cesser le conflit qui oppose depuis le 4 novembre l'armée fédérale aux forces de la région dissidente du Tigré, après un week-end marqué par une dangereuse escalade. À la tête de cette région du nord de l'Éthiopie, le TPLF, le Front de Libération des Peuples du Tigré, a tiré samedi plusieurs roquettes sur Asmara, capitale de l'Érythrée voisine, dont elle accuse les autorités de prêter main forte à l'armée fédérale éthiopienne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a entamé une nouvelle tournée internationale. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le chef de l'État français a rencontré le secrétaire d'État en fin de matinée à l'Élysée à l'abri des caméras et des micros. Même chose pour le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, qui s'est entretenu avec son homologue américain juste avant. L'exécutif français a souligné avoir reçu Mike Pompeo à sa propre demande, en toute transparence avec l'équipe du président élu Joe Biden. Il était normal et respectueux des institutions américaines qu'il soit reçu. Le mandat de Donald Trump courant jusqu'au 20 janvier a relevé une source diplomatique française, sans autre précision. Le président Macron a été parmi les premiers à féliciter le démocrate pour son élection aux États-Unis avant de s'entretenir au téléphone avec lui. Et ce, alors même que le président sortant Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, plus d'une semaine après l'annonce des résultats. « J'ai gagné l'élection », a-t-il encore tweeté dans la nuit de dimanche à lundi. Mike Pompeo a lui-même, avant de s'envoler pour une tournée en Europe et au Moyen-Orient, dont Paris était la première étape, refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden. Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump, a-t-il dit, avant de critiquer les dirigeants étrangers qui ont déjà pris contact avec Joe Biden.
Lutte contre le Covid-19, l'on se rapproche de la mise au point d'un vaccin. La société américaine Moderna affirme que son vaccin a prouvé une efficacité de 94,5%. Pendant ce temps, la pandémie progresse dans le monde. Mohamedou Oumfa fait le point.
Moderna a annoncé ce lundi que son vaccin était efficace à 94,5%. Ce résultat découle d'une étude préliminaire en cours sur 30 000 personnes aux États-Unis. En observant un premier groupe de 95 personnes symptomatiques, les chercheurs ont constaté que 90 des participants venaient du groupe placebo, c'est-à-dire ceux qui n'avaient reçu aucun vaccin actif, contre 5 dans le groupe vacciné. On ignore encore la durée de la protection conférée par le vaccin, mais si ce niveau d'efficacité était le même dans la population générale, ce serait l'un des vaccins les plus efficaces qui existent. Moderna demandera une autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines aux États-Unis où la production a déjà commencé. Pendant ce temps, les cas confirmés de COVID-19 progressent dans le monde. Le dernier bilan de l'université Johns Hopkins fait état de 54,5 millions de personnes contaminées depuis la découverte du virus et plus de 1,3 million de morts. Des mesures de restriction anti-COVID se multiplient en Europe. Pour la première fois, la Suède, qui mène une stratégie moins stricte que la plupart des pays européens, a annoncé limiter les rassemblements publics à 8 personnes maximum.
Si cette annonce d'un nouveau vaccin vient apporter un peu d'optimisme dans la lutte contre le coronavirus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cependant prévenu qu'un vaccin ne suffirait pas à lui tout seul à vaincre la pandémie et qu'il allait compléter les autres outils que nous avons, pas les remplacer. Ici aux États-Unis, la maire de Chicago, la troisième ville du pays, a recommandé à ses 2,7 millions d'administrés d'éviter les sorties à partir d'aujourd'hui, lundi, sauf pour les déplacements essentiels, dont le travail et l'école, de ne recevoir aucun invité et d'annuler les traditionnelles fêtes de Thanksgiving. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, le prix du passeport biométrique, considéré comme l'un des plus chers au monde, va diminuer de moitié. Les ministres des Affaires étrangères et des Finances, Marie Toumba Nzenza et José Sélé Yalagouli, ont signé un arrêté interministériel fixant le nouveau prix à l'équivalent de 99 dollars, soit 50 dollars pour l'autorité contractante et 49 pour le titulaire. Fourni par une entreprise belge depuis 2015, le passeport se vendait à 185 dollars. Le contrat controversé avec Cemlex n'a pas été renouvelé à son terme en juin dernier. Selon les travaux du groupe d'études sur l'évaluation de la dette intérieure du Gabon, environ 440 milliards de francs CFA n'ont pas pu être justifiés sur le stock de 650 milliards d'engagements de l'État audité. Le porte-parole de la présidence, Jessie Ella Ekoga, a indiqué que plusieurs cadres de l'administration publique sont visés pour corruption et complicité avec certains opérateurs. Mis en place par décret présidentiel le 20 juin, le groupe de travail sur la dette intérieure a audité plus de 500 entreprises. Les opportunités économiques en Afrique étaient sur une trajectoire positive de progrès constant, mais l'impact du coronavirus menace ce qui a été accompli, selon l'indice de la Fondation Mo Ibrahim publié ce lundi.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021, reportés à 2022, ont commencé sur le continent. L'Eswatini a tenu en échec ce soir le Congo 0-0, même score entre le Burkina Faso et le Malawi, 4-2 pour l'Afrique du Sud qui s'est déplacée à Sao Tomé et Principe, 1-0 pour le Soudan qui a reçu l'Ouganda. Les Zimbabwéens ont tenu en échec les champions d'Afrique algériens 2-2. Le Sénégal est la première nation à se qualifier sur le terrain pour cette CAN prévue au Cameroun. En venant à bout de la Guinée-Bissau sur le score d'un but à zéro, le Sénégal reste en tête du groupe I avec un parcours sans faute jusque-là. Depuis Dakar, la correspondance de Seydina Bagui.
4 matchs, 4 victoires, 9 buts marqués pour 1 encaissé. L'équipe nationale du Sénégal a confirmé sa supériorité dans son groupe en battant la Guinée-Bissau chez elle. Les Lions ont une nouvelle fois pu compter sur le talent de Sadio Mané, auteur de l'unique but du match à la 82e minute de jeu. Un but synonyme de victoire qui ouvre la porte de la CAN 2021 au Sénégal. En plus d'offrir la qualification aux Lions, ce but permet à Sadio Mané de rejoindre El Hadji Ousseynou Diouf à la 2e place des meilleurs buteurs de l'équipe nationale du Sénégal. La star de Liverpool est maintenant à la chasse du record de Henri Camara, meilleur buteur de l'histoire des Lions, avec 31 réalisations sous le maillot national. En attendant que ce record tombe, les supporters et les observateurs aimeraient voir les Lions pratiquer un football moins laborieux, car après la défaite face au Maroc en match amical, la double confrontation face à la Guinée-Bissau n'est pas vraiment parvenue à les rassurer en termes de qualité de jeu. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
Le Mali ne s'est pas encore qualifié, mais a remporté les 3 points à domicile 1-0 à l'issue de son match face à la Namibie vendredi dernier. Pour le sélectionneur des Aigles, son équipe doit encore fournir beaucoup d'efforts. Mohamed Magasouba.
Nous attendons à un match très difficile, mais il faut aussi reconnaître que notre jeu est basé au sol, mais avec un terrain très crasseux et très gras comme ça. Et croyez-moi que les enfants ont mis toutes les peines du monde pour pouvoir s'exprimer correctement comme on le voulait.
Mohamed Magasouba, sélectionneur du Mali pour la manche retour, ce sera demain mardi à Windhoek en Namibie. À suivre aussi demain entre autres Éthiopie, Niger, Lesotho, Bénin, Madagascar, Côte d'Ivoire, Soudan, Ghana, Angola, RDC, Centrafrique, Maroc, Togo, Égypte ou encore Sierra Leone, Nigeria. Justement, l'ancien joueur de football de l'équipe nationale nigériane, Christian Obodo, a été enlevé dimanche à Wari dans l'état du Delta par des inconnus armés. Obodo avait déjà été enlevé dans la même région en 2012. Il s'est couru le lendemain lors d'une descente de police passée par Pérouse, la Fiorentina et l'Udinese en Italie en début de carrière. L'ancien milieu de terrain a achevé celle-ci en 2017 après une dernière pige en Grèce à Apollon, Smyrne.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous, place au dossier du jour. La campagne électorale en vue des élections du 22 novembre prochain au Burkina Faso se poursuit. Une campagne qui se tient dans un contexte sécuritaire difficile. Ils sont 13 candidats et à la conquête du fauteuil présidentiel. Les populations ont du mal à suivre les programmes des candidats. Les analystes pensent qu'on pourrait justement assister à une abstention assez importante lors de ces scrutins du 22. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Quelques deux semaines après l'ouverture de la campagne électorale, les populations ont fini d'écouter l'ensemble des 13 candidats à la présidentielle et des candidats aux législatives.
Roch, j'aurais mieux espéré qu'il fasse mieux parce qu'il a toujours été là au pouvoir, même si c'est Blaise qui dirigeait.
Victorien Moulet est un électeur.
Lui, il n'est pas vraiment étranger au pouvoir en place. Taïrou Barry, je l'ai suivi depuis 2015. C'est quelqu'un qui a su répondre et il a toujours été direct et cohérent dans tous ses propos par rapport aux autres qui ont promis donner le ciel ou qui ont promis ramener de la mer. C'est des choses qui sont possibles, mais à quand et à quel prix? En ce moment, beaucoup de Burkinabés espèrent que leur quotidien change.
Robert Yameogo, mis sur la réélection du président sortant.
Pour moi, parmi les 13 candidats, je pense que c'est le président Roch. Pour le moment, c'est lui, je vois, pour la continuité, à part le terrorisme, qui est l'impact sur le gouvernement du président Roch. Je ne vois pas beaucoup d'inconvénients. Et je vois beaucoup de choses qu'il a pu réaliser.
Les programmes des candidats ne sont pas accessibles aux populations quant à leur compréhension. Cela aura un impact sur ces élections selon Siaka Koulibaly, analyste politique.
Les programmes, comme d'habitude, restent assez élitistes et formulés d'une manière qui est difficilement appropriable par la plus grande majorité des populations, qu'ils soient analphabètes ou à un niveau d'instruction intermédiaire. Il reste que la plupart des Burkinabés ressentent une espèce d'insuffisance de la part de la classe politique en termes de figures qui tranchent et qui peut se présenter comme celui qui peut réellement régler les difficultés auxquelles fait face le pays à l'heure actuelle. Si bien qu'on pourrait s'attendre à une abstention assez importante.
Cette campagne se tient dans un contexte sécuritaire tendu. Les élections ne se tiendront pas dans plusieurs communes du pays. La semaine dernière, 14 militaires ont été tués à Tinakoff, dans le Sahel. En pleine campagne, le chauffeur d'un député de la majorité a aussi été tué. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Au Bénin, 4 personnes ont été placées sous mandat de dépôt le 28 octobre 2020 par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Gilbert Tobonon. Il aurait reproché l'escroquerie via Internet, la fraude fiscale, le transport en contrebande des produits et le blanchiment de capitaux. Les personnes incarcérées se présentent aux populations comme des responsables de structures d'opportunités d'affaires, du marketing relationnel et de l'e-commerce. Une arrestation qui remet sur le tapis l'épineuse question de la fiabilité du marketing de réseau et de l'e-commerce au Bénin. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le marketing relationnel ou marketing de réseau est présenté par les jeunes comme le système le plus adéquat au XXIe siècle pour gagner de l'argent. Tout commence généralement par une approche amicale, une idée vendue comme étant révolutionnaire et vous voici embarqué pour une destination inconnue. Pas si inconnue, répond Emma Sorontan qui confie avoir fait fortune juste avec son smartphone.
Le numérique présente vraiment une très grosse opportunité, une opportunité qui n'avait jamais existé. pour un jeune Africain avant. Et il est temps que les jeunes Africains le sachent et saisissent cette opportunité pour assurer leur avenir et pour améliorer aussi l'avenir du Bénin.
Le principe premier du système est de côtoyer la richesse en un temps record juste en faisant des placements intelligents. Pour Anilo Medigan Fagla, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est parfois du rêve qui est vendu.
Vous n'avez aucune condition générale de vente, vous n'avez pas de protection de la vie privée, vous n'avez aucune politique d'échange de remboursement. Donc en une fois, je place disons 500 000 et tous les ans ça me rapporte 1 500 000, donc 300% de bénéfices sans même placement d'argent. C'est pas possible, il n'y a pas de système économique aujourd'hui qui fonctionne aussi magiquement. Et c'est ça que j'aimerais que les usagers de l'Internet comprennent, il n'y a pas de magie.
Le marketing de réseau est perçu par beaucoup de Béninois comme un système parallèle à la pyramide de Ponzi où les nouveaux sont grugés par les plus anciens qui sont en réalité les plus grands profiteurs jusqu'au jour où le système devient saturé. Beaucoup s'y sont aventurés et en ressortent découragés, amers contre ce type de marketing ou même le e-commerce où ils ont payé des produits sans jamais les recevoir. Quelques-uns expliquent.
Ce n'est pas une bonne activité parce que ça a un impact négatif sur les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, notamment sur le plan économique. Parce que si quelqu'un vient, il a des risques de se faire arnaquer, de se faire pirater, et ainsi de suite. Il sera peu enclin à vouloir investir, à vouloir s'installer ici.
Tu ne peux pas me dire de t'envoyer 1 million dans ton compte et tu vas m'envoyer 4 millions et je vais l'envoyer si je ne suis pas un voleur ou un criminel comme toi.
Pour Epiphane Dalokono, responsable au Bénin d'une forme de marketing de réseau, ne pas tomber sur le bon n'est pas la preuve que tout est mauvais.
Ceux qui s'engagent dans le marketing de réseau aussi, la majorité ne savent pas ce qu'ils ont en main. Dans le jargon classique, les gens disent la chaîne pyramidale, nous savons qu'on prend l'argent de quelqu'un pour payer quelqu'un, on prend l'argent de l'autre pour payer l'autre, et donc à un moment ça va se bloquer. Le marketing de réseau, le vrai, existe.
Les Béninois, dans leur majorité, voient à travers le marketing de réseau un système d'arnaque bien plus performant que l'affaire ICC Service qui a explosé il y a quelques années et qui a appauvri des milliers de personnes. Les autorités appellent à la retenue et à la vigilance. De Cotonou, Ginette Loa dans les pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. Le Burkina Faso aux urnes ce dimanche. Les électeurs choisissent leur président et leurs députés à l'issue d'une campagne dominée par la question sécuritaire. En effet, le pays connaît depuis 2015 une série d'attaques djihadistes. Comment le sujet sur la sécurité est-il abordé par les 13 candidats à la présidentielle? Quels sont les autres thèmes abordés lors de cette campagne? Comment les Burkinabés voient-ils ces élections? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 19 novembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue de s'accroître ici aux États-Unis, l'équipe de l'ancien vice-président Joe Biden, vainqueur projeté de la présidentielle 2020, demande à l'administration Trump d'amorcer le processus de transition cette semaine pour aider le pays. Michel Quinn fait le point, le récit est de Lionel Gaïma.
La nouvelle flambée d'infections au nouveau coronavirus s'observe dans toutes les régions des États-Unis. Toutefois, la pandémie est prise dans un bras de fer politique. En effet, on attend toujours de savoir si le président Donald Trump permettra à son administration de collaborer avec l'équipe du président élu Joe Biden, dont l'investiture doit avoir lieu le 20 janvier. Toutefois, Trump continue de dénoncer sans preuve une fraude électorale généralisée lors de la présidentielle. Pour l'équipe Biden, le manque de coopération du chef de l'exécutif américain met le pays en danger en pleine intensification de la pandémie du Covid-19. Le docteur Atul Gawande fait partie du conseil consultatif de Biden.
Il est dans l'intérêt de notre nation que l'équipe de transition obtienne les évaluations de la menace, que l'équipe prenne connaissance des plans de distribution des vaccins, des stocks et de la situation concernant les masques et les gants. Beaucoup d'informations ont besoin d'être transférées. Cela ne peut attendre jusqu'à la dernière minute.
Selon le quotidien Washington Post, cela fait 5 mois que le président Trump n'a pas pris part aux réunions de son groupe de travail sur le Covid-19.
Il s'est toutefois exprimé la semaine dernière sur le calendrier de livraison d'un vaccin contre la pandémie.
Ce processus commence immédiatement. Des millions de doses seront bientôt en voie de distribution. Elles seront prêtes, attendant l'approbation finale.
Les informations sur les efforts de l'administration Trump contre la pandémie sont largement partagées avec le public et l'équipe de Biden, assure l'amiral Greg Giroir, membre du groupe de travail de la Maison-Blanche sur le COVID-19.
Je veux être aussi transparent que possible avec tout le monde. Il ne s'agit pas d'un problème politique. Il s'agit d'un problème de santé publique et de sauver les vies des Américains. Il n'y a rien de plus important que cela.
Pour sa part, l'ancien conseiller de la sécurité nationale du président Trump, John Bolton, appelle les leaders républicains à pousser la Maison-Blanche à partager avec l'équipe Biden les informations sur le virus et la sécurité nationale.
Et encore une fois, je pense qu'il est nécessaire pour les républicains d'expliquer que c'est l'ordre des choses que nous ayons une transition et nous devons l'amorcer le plus tôt possible.
Selon l'université Johns Hopkins, les États-Unis continuent d'être le pays le plus affecté de la pandémie au monde, avec plus de 11 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 246 000 morts.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gallimard et Georges Léonard Sagno. Au micro, Clément Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le nombre d'arrestations de militants pro-démocratie sous la nouvelle loi sur la sécurité et d'autres règlements continue d'augmenter à Hong Kong. Avec chaque arrestation, le Parti communiste chinois démantèle un peu plus l'autonomie de Hong Kong et éviscère le respect pour les droits humains. Tout récemment, les autorités ont arrêté 8 politiciens pro-démocratie à Hong Kong, y compris 5 membres du Conseil législatif. Selon la police, ils ont été placés en détention dans le cadre d'une enquête concernant la houleuse réunion du 8 mai sur la question de savoir qui doit contrôler une commission clé de la législature. L'arrestation de ces législateurs, 6 mois après l'incident en question, est un abus flagrant de la loi à des fins politiques, a fait savoir le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration. Le harcèlement et l'intimidation des députés pro-démocratie par le gouvernement de Hong Kong, de même que ses tentatives de musellement de toute dissension, sont des exemples frappants de sa complicité avec l'autoritarisme du Parti communiste chinois. Le 23 octobre, 3 membres d'un ancien groupe d'étudiants prônant l'indépendance de Hong Kong ont été arrêtés sous la loi nationale sur la sécurité en rapport avec la publication sur les plateformes des médias sociaux des contenus incitant à la sécession. Les 3 sont l'ancien leader estudiantin Tony Chong et l'ancien membre William Chang et Yanni Ho. Les États-Unis condamnent fermement leur arrestation et leur détention, de même qu'ils appellent les autorités de Hong Kong à libérer immédiatement tous ceux qui sont en détention. La République populaire de Chine a violé ses obligations internationales sous la déclaration conjointe sino-britannique de 1984, alors que le Parti communiste chinois et ses mandats à Hong Kong écrasent l'autonomie promise à Hong Kong et érodent le respect de Hong Kong pour les droits humains, y compris le droit de se rassembler pacifiquement et la liberté d'expression. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple de Hong Kong.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.